Radio Okapi. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée dont voici les titres. Bonne nouvelle pour les abonnés des réseaux de la téléphonie mobile du Nord Kivu. Après près d'un mois d'interruption totale des services, les abonnés de Vodacom, Orange et Airtel peuvent de nouveau communiquer dans plus de 5 territoires du Nord Kivu et même à Calais et au Sud Kivu. Un pas important vient d'être franchi dans la lutte contre les paludismes au Kasaï oriental. La province a officiellement intégré un nouveau vaccin antipaludique dans son calendrier vaccinal de routine. À l'issue de consultations menées avec les parties prenantes, 5 sites pilotes de démonstration ont été retenus dans la province du Maniema dans le cadre du projet WIN, eau, énergie et écosystème mis en œuvre par la coopération allemande GIZ. Pour en parler, nous recevons le professeur Raphaël Chimanga Mwamba, directeur du Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. Au Nord Kivu, les réseaux de téléphonie mobile ont été rétablis dans la nuit de lundi à mardi dans au moins 5 territoires autour de la ville de Goma. Les abonnés de Vodacom, Orange et Airtel peuvent de nouveau communiquer dans les territoires de Nirangongo, Rutshuru, Lubero, Masisi, Walikale et même Kalehe au Sud Kivu. C'est après près d'un mois d'interruption totale des services. Bernadette Nyangui pour les détails.
Des habitants jouant dans ces zones actuellement sous occupation rebelle affirment avoir capté à nouveau le signal depuis 23 heures lundi. Ils peuvent désormais passer des appels, envoyer des messages et accéder à Internet alors que tous ces services étaient hors d'usage durant près d'un mois. Pendant cette période, pour communiquer avec leur famille, certains habitants devaient parcourir plusieurs kilomètres afin d'atteindre des points où un minimum de réseau restait accessible. La coordination des activités économiques, les opérations de conservation notamment pour le cas du parc national de Virunga ainsi que l'accès à l'information étaient fortement paralysés. Les acteurs humanitaires et sanitaires ont également rencontré d'importantes difficultés pour assurer le suivi de leurs interventions et déclencher les alertes rapides en cas d'urgence. Le rétablissement du réseau constitue donc un véritable soulagement. Il permet la reprise des échanges, améliorer la circulation de l'information et faciliter même la paix des enseignants et du personnel soignant en zone rurale via les services de Mobile Money. Jusqu'à présent, aucune communication officielle n'a été faite sur les causes ou l'origine exacte de cette coupure, regrettent toutes nos sources.
Au sud qui vos voisins, pendant ces temps, les échanges commerciaux sur la route nationale numéro 5 dans l'axe Fizi sont paralysés. Deux causes principales expliquent cette situation, l'insécurité liée au conflit armé et le délabrement avancé de ces tronçons. La RN5 relie non seulement les provinces du sud Kivu, du Tanganyika et du Maniema, mais elle constitue également un corridor stratégique vers 4 pays limitrophes. L'administrateur du territoire de Fizi, Sami Kalonji Badibanga, réitère son plaidoyer auprès des autorités provinciales et nationales. Il insiste sur l'importance capitale de cette route nationale qu'il estime laissée à l'abandon. On écoute Sami Kalonji Badibanga au micro de Jean Kassami.
La RN5 constitue pour nous Fizi un fleuron économique parce que non seulement que cette route d'intérêt national est bénéfique pour nous, les habitants du territoire de Fizi, mais c'est une route qui ouvre aussi la voie vers Kalemi, le territoire de Kabambare, vers le village minier de Salamabila. Et c'est la route aussi qui ouvre la voie vers le pays limitrophe, notamment la Zambie, la Tanzanie, le Burundi et la Mozambique. Donc, cette route d'intérêt national est pour nous un poumon économique. Voilà que nous sommes en train de déplorer parce que pendant cette période de guerre, les activités sur ces tronçons n'existent plus. Ce tronçon est abandonné à son triste sort. Et d'ailleurs, nous déplorons son délabrement très avancé. Nous avons fait plusieurs plaidoyers pour que cette route soit réhabilitée. Nous avons dit aussi le courage d'écrire au ministre national des infrastructures pour qu'il puisse aussi apporter son attention particulière sur ces tronçons.
En Ituri, le centre commercial de Boulé, situé à environ 100 km de Bounia, dans les territoires de Djougou, retrouve progressivement sa quiétude après les accrochages survenus ces dernières semaines entre les soldats des FARDC et les miliciens de la CRP, Convention pour la Révolution Populaire. Cet accalmie a permis l'arrivée sur place d'une organisation humanitaire afin de venir en aide au centre de santé Salama, confronté à de sérieuses difficultés dans la prise en charge des malades. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
Selon des sources locales, la situation sécuritaire s'est relativement améliorée, ce qui a conduit les autorités militaires à autoriser uniquement les femmes à accéder à leurs champs pour se procurer des vivres. Le centre de santé Salama, qui accueille de nombreux malades et des blessés, se trouvait jusque-là dans l'incapacité de leur assurer une prise en charge adéquate, faute de médicaments, confie une autorité sanitaire locale. L'arrivée de cette organisation humanitaire spécialisée dans le domaine médical constitue donc un véritable ouf de soulagement pour de nombreux femmes enceintes, des personnes malnutries ainsi que des enfants malades. Cependant, malgré ce retour progressif au calme, des cas de pillage continuent d'être signalés. À la paroisse catholique de Boulé, le presbytère a été vandalisé par des personnes non identifiées qui ont emporté plusieurs biens de valeur. Pour l'instant, les activités socio-économiques se déroulent principalement autour du site de la plaine Savo où une grande partie de la population de cette contrée s'est réfugiée pour fuir les violences. Bounia, Jean-Claude Loki, Guinée, Radio Okapi.
Autre nouvelle, les jeunes du Congo central désireux d'intégrer les forces armées de la République démocratique du Congo disposent de 3 jours pour s'inscrire dans les différents centres d'enrôlement ouverts dans la province. Cet appel est lancé par le colonel Milongo Chamakanda du Ciel, directeur du recrutement à la 12e région militaire du Congo central. Selon lui, les candidats retenus viendront s'ajouter aux 725 recrues déjà rassemblés au centre de formation des Tambaga Gadio dans les territoires de Songololo en attente de leur transfert vers les centres d'instruction de Moura près de Likasi dans le Haut-Katanga. Le colonel Milongo Chamakanda du Ciel précise que les jeunes concernés doivent être aptes mentalement, physiquement et moralement afin de rejoindre les FARDC et servir les pays au sein d'une armée moderne et professionnelle. On l'écoute dans ses propos recueillis par Nana Plurich Mambo.
Au niveau de Tombangadjo, nous avons 725 recrues qui sont regroupées. Nous sommes à pied d'œuvre pour l'évacuation. On attend juste le go qui sera donné par la hiérarchie pour évacuer les recrues vers les centres de Moura qui se trouvent dans le territoire de Likasi, au Grand Katanga. Je félicite d'abord les parents qui m'ont donné les meilleurs de leurs enfants parce qu'en matière de recrutement, on ne prend pas n'importe qui. Comme j'ai toujours dit, que l'armée n'est pas un dépotoir. L'armée n'est pas un refuge des rébus de la société. Nous prenons des enfants aptes mentalement et physiquement, les enfants ayant une bonne moralité surtout. De toute façon, ceux qui s'étaient enregistrés, qui ne sont pas au courant de notre position actuelle de regroupement au niveau des Tombangadjo, je leur dis de venir rapidement parce que nous leur accordons une petite chance de 3 jours. Ils veulent venir se joindre aux autres qui sont déjà regroupés en attente de leur évacuation. Ceux qui n'avaient pas encore pris les restrictions, qu'ils viennent rapidement s'inscrire au camp Rediaf. Ceux qui sont souples peuvent directement passer au niveau du centre de Tombangadjo. Conformément à la vision culminante du président de la République, nous devons former nos jeunes parce qu'une armée sans formation, c'est comme une société sans culture, c'est comme un corps sans âme.
Et puis la Turquie réitère son engagement à accompagner la République démocratique du Congo dans la recherche de la paix durable. L'ambassadeur turc en RDC a livré cette information au sortir de son entretien ce lundi avec le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale. Le même jour, Guy Kabombo Mwadiamvita a tour à tour reçu en audience l'ambassadeur du Liban et celui du Burundi. Les explications avec Blaise Ndongala Mayanda.
L'ambassadeur turc en RDC, Murat Ulku, a présenté à Guy Kabombo Mwadiamvita les nouvelles attachés militaires turcs accrédités en RDC. Des diplomates turcs ont salué l'amélioration des coopérations bilatérales en matière de la défense et sécurité entre Kinshasa et Ankara. Murat Ulku a également réitéré l'accompagnement de la Turquie à la RDC dans son processus de restauration durable de la paix sur toute l'étendue du territoire national. S'en est suivi l'audience avec l'ambassadeur libanais venu présenter ses civilités au numéro 1 de la défense nationale congolaise. Haitham Ibrahim a réaffirmé les liens fraternels entre Kinshasa et Beyrouth ainsi que la volonté des deux pays de conserver et de renforcer leurs relations bilatérales. Sans répit, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale s'est également entretenu avec l'ambassadeur burundais, général-major agricole Mwamba Ntirampeba, sur sa prochaine visite officielle au Burundi. Le déplacement de Guy Kabombo Mwadiamvita du Bujumbura sera axé sur les renforcements développement des coopérations bilatérales en matière de la défense entre la RDC et les Burundis.
8 personnes, dont le bourgmestre de la commune urbano-rurale de Panou, ont été condamnées à la peine de mort lundi par les tribunaux militaires des garnisons de Kikwit, compétents pour les provinces du Kwilu, Kwango et du Maïndombe. Cette décision a été rendue à l'issue d'audiences foraines en matière de flagrance organisée à Idiofa et portant sur les affrontements meurtriers survenus dans cette entité. 2 autres prévenus ont été acquittés et remis en liberté. La juridiction militaire a retenu la culpabilité des 8 condamnés pour faits de terrorisme en excluant toutes circonstances atténuantes. Parmi eux figurent les bourgmestres Xenon Moufélé, présenté par l'accusation comme l'instigateur des violences. Les faits remontent au 3 février 2026, vers 5 heures du matin. Ce jour-là, la police avait arrêté 2 présumés bandits dans la commune urbano-rurale de Panou. En réaction, les membres de leur groupe les avaient soustraits aux forces de l'ordre, déclenchant des violents affrontements. 4 personnes, dont 2 policiers, avaient perdu la vie lors de ces incidents. Santé à présent, un pas important vient d'être franchi dans la lutte contre le paludisme au Kasaï oriental. La province a officiellement intégré un nouveau vaccin anti-paludique dans son calendrier vaccinal de routine. La cérémonie de lancement s'est tenue ce lundi sous la présidence du ministre provincial de la Santé, Dr Daniel Kazali, en présence de plusieurs responsables du secteur sanitaire et des leaders d'opinion. Des explications avec Esther Ndarafina.
Ce vaccin, administré sous forme de gouttes, cible les enfants âgés de 6 à 24 mois. Il sera délivré en 4 doses respectivement aux âges de 6, 7, 8 et 15 mois. Selon le ministre provincial de la Santé, Dr Daniel Kazadi, cette innovation vise à protéger les enfants contre le paludisme, première cause de mortalité infantile dans la province.
Ça entre dans les calendriers de routine et ça s'ajoute aux autres vaccins que nous donnons systématiquement aux enfants. Il n'y a pas de campagne. D'ailleurs, c'est une des précisions faites ce matin par le niveau national. Ce n'est pas une campagne, c'est vraiment un vaccin qui entre dans les calendriers des routines.
Les chiffres illustrent l'urgence. Déjà à la 6e semaine épidémiologique de l'année en cours, plus de 15 000 cas de paludisme ont été enregistrés chez les enfants avec plusieurs décès. Le ministre a annoncé que la prochaine étape consiste à assurer la disponibilité du vaccin dans toutes les structures sanitaires organisant la vaccination pédiatrique. Esther Dalafina, Mbujumaï, Radio Okapi.
Le directeur général de l'Office congolais de contrôle OCC, Étienne Chimanga Mutombo, a été suspendu à titre conservatoire de ses fonctions par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, pour faute grave de gestion. Il lui est reproché notamment l'installation d'un système informatique parallèle de contrôle des importations et exportations, facilitant l'usage frauduleux de fausses attestations de vérification AV. Cette pratique aurait entraîné un manque à gagner évalué à plusieurs milliers de dollars américains. Sont également pointés la gestion chaotique des ressources humaines et financières ainsi que des actes d'insubordination. Cette décision est contenue dans un arrêté ministériel signé le lundi 16 février 2026 et relayé par un communiqué du ministère du Commerce extérieur. Le point avec vous, Alain Hirung.
Selon ce communiqué, la suspension ouvre la voie à des mesures administratives et extra-administratives visant le directeur général ainsi que les agents ou cadres de l'OCC impliqués dans les faits reprochés. Durant cette période, l'intérim sera assuré par la directrice générale adjointe, Christelle Mwabilou. Par ailleurs, une commission de redressement de l'OCC sera instituée. Sa composition et ses missions spécifiques seront fixées par un autre arrêté ministériel. Le communiqué précise enfin que les réponses fournies par le directeur général suspendu n'ont pas convaincu l'autorité de tutelle qui avait engagé une action disciplinaire à son encontre.
Province du Kasaï central, avant d'aller plus loin, la voie ferrée est de nouveau coupée par un ravin à Benaleka dans le territoire de Demba. Cette situation survient malgré les travaux de réhabilitation lancés il y a un mois par l'Office des voiries et drainage OVD qui avait réussi à remettre le chemin de fer en service. Les travaux n'étant pas achevés, les récentes pluies ont emporté les remblais posés par l'OVD. En conséquence, le trafic ferroviaire entre le Kasaï et le Kasaï central est interrompu, le train ne pouvant plus circuler. Place maintenant au reportage d'André Katendenga Lamouloumé.
Selon Gaston Chipumbu, coordinateur de la nouvelle société civile congolaise dans la commune rurale de Beneleka, la situation s'est aggravée vendredi dernier après une pluie qui a duré près de 5 heures. Il redoute une crise des produits alimentaires des premières nécessités et appelle les autorités provinciales et nationales à intervenir rapidement pour remblayer les ravins et rétablir le trafic.
Nous sommes encore plongés dans une situation difficile. C'est le chemin de fer qui ravitaille les gens qui sont à Kanan avec du maïs, ainsi de suite. Cela va aussi provoquer la montée en prix d'arrêt alimentaire. Donc nous demandons à notre gouvernement de s'impliquer. Non seulement le gouvernement provincial, même le gouvernement central.
Des sources au sein de la Société nationale des chemins de fer du Congo, SNCC, région Nord, indiquent que l'entreprise est déjà mobilisée pour résoudre les problèmes et permettre la reprise du trafic. Kananga, André Katendenga Lamulme, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le chef du régime militaire du Niger, le général Abdourahman Tiani, a terminé ce lundi 16 février une visite officielle de 2 jours en Algérie à l'invitation du président algérien Abdelmadjid Tebboune. Le chef du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie était accompagné d'une importante délégation ministérielle pour cette visite qui met un terme à plusieurs mois de crise diplomatique entre Niamey et Alger.
L'invité.
Notre invité est le professeur Raphaël Chimanga Mwamba, directeur du Centre de recherche en ressources en eau du bassin du Congo. À l'issue des consultations menées avec les parties prenantes, 5 sites pilotes de démonstration ont été retenus dans la province du Maniema. Ces sites serviront à la collecte des données dans le cadre du projet WIN, eau, énergie et écosystème, mis en œuvre par la coopération allemande GIZ. Le professeur Raphaël Chimanga Mwamba s'entretient avec Florence Kizalunga.
Professeur Raphaël Chimanga, bonjour.
Bonjour madame.
Après votre rencontre avec différentes parties prenantes pour coordonner une consultation dans le cadre de votre projet WIN, de quoi est-ce que nous pouvons retenir de cette étude?
Alors disons WIN, c'est en anglais, il s'agit bien entendu du Nexus eau, énergie, climat, donc un processus qui cherche à pouvoir coordonner différents secteurs pour aboutir aux objectifs d'exploitation durable des ressources naturelles, mais aussi la conservation de nos ressources naturelles. Alors, nous sommes arrivés à pouvoir atteindre un des objectifs clés qui est la sensibilisation des parties prenantes, qu'ils puissent comprendre réellement ce que c'est le projet et le processus de mise en œuvre de ce projet et aussi identifier différents domaines de collecte des données nécessaires à la mise en œuvre de ce projet.
Est-ce que vous avez pu identifier quelques sites ici dans la province du Maniema?
Nous avons identifié 5 sites dans la province du Maniema, dont les sites de la rivière Mikelenge, les sites de la rivière Kasuku, les sites de la rivière Elida, les sites de la rivière Oulindi et les 5e site de la rivière Kunda. Voilà, ce sont là les 5 sites qui ont une certaine diversité en termes de leur potentiel. Il y a des sites qui ont un potentiel hydroélectrique conséquent, des sites qui ont une biodiversité endémique conséquente. Il y a aussi des sites qui subissent des pollutions en termes de pollution minière ou bien pollution domestique. Il y a aussi des sites qui sont sujets à l'inondation.
Est-ce que après cette étude, l'Emanima comme province pilote dans ces processus sera doté de sa base de données pour orienter ses actions futures dans ces 3 secteurs, notamment eau, énergie et écosystème?
Exactement, c'est ça même un des objectifs clés du projet, c'est que les différentes données qui seront collectées vont servir des orientations des politiques de développement pour la province, mais aussi c'est un projet pilote qui devra aussi servir des leçons pour d'autres provinces de la RDC. Donc, les leçons apprises de ce projet devraient être répliquées dans d'autres provinces.
Est-ce que les CREBAC comptent collaborer avec les institutions de recherche de la place lors de cette étude afin que leur recherche locale en profite également de cette expérience?
Les CREBAC, c'est les centres de recherche en ressources en eau du bassin du Congo qui appuient ces projets dans le volet scientifique et technique, a déjà établi un réseau de collaboration avec les institutions scientifiques, mais aussi techniques, au niveau des services techniques du gouvernement, au niveau de la province, mais aussi au niveau national.
Vous avez pu sensibiliser la communauté, les parties prenantes, et identifier aussi certains sites. Qu'est-ce qui suivra après cet exercice? exercice.
Il était question pour nous d'identifier ces sites de démonstration et après cet exercice, nous sommes en train de nous préparer pour pouvoir lancer la phase de collecte des données. Et nous allons aussi procéder à l'installation des stations, des suivis hydrométéologiques, par exemple des stations qui donnent des données climatiques, aussi des données hydrométriques.
C'est là dans un bref délai ou bien c'est un projet à long terme?
En fait, c'est que nous accusons un petit retard dans la mise en œuvre. Nous sommes maintenant dans la course pour nous rattraper et le projet a encore quelques 3 ans et ce projet va ouvrir la porte à d'autres grands projets pour investir dans le secteur.
Et si ces projets réussissaient, en quoi est-ce qu'ils seraient bénéfiques aux enfants du Maniema?
Comme je l'ai dit, la province du Maniema, c'est une province qui est au carrefour de plusieurs cours d'eau, d'un réseau hydrographique intense et qu'il est important de pouvoir transformer ses potentiels en richesse et que ces projets va certainement conduire. Par exemple, aujourd'hui, nous pouvons voir qu'il y a un problème critique au niveau de la province du Maniema, c'est des problèmes d'accès à l'électricité. Et si ces projets peuvent donner des orientations politiques claires pour le développement de l'hydroélectricité dans la province, ça sera une très bonne chose. Un autre problème, c'est celui du transport. Vous trouvez que la province est presque enclavée, alors qu'il y a des cours d'eau qui peuvent mieux faciliter la navigation. Donc voilà un peu les orientations de développement qui peuvent bien surgir de ces projets pour avoir des informations précises qui vont aider les investisseurs dans l'initiative à venir.
Professeur Raphaël Timanga, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup, madame.
C'était donc notre invité, le professeur Raphaël Timanga Mwamba, qui s'entretenait avec Florence Kizalunga. Et c'est ce qui met fin à cette édition du journal coordonnée par Élisée Chikota-Chivoeta et supervisée par Alain Irung-Moshinj. La mise en onde était assurée par Alain Goy. Ce journal est à retrouver sur notre site internet www.radiocapi.net.